Bonjour. Bonjour à tous, à toutes, pardon, à ceux auxquels nous tournons le dos. Vous êtes bien nombreux, bienvenue sur cette place Marcel Pagnol, qu'on aime bien pour l'intimité qu'elle nous offre. On est un petit peu à part, avec cette bâche au-dessus de la tête et les grands arbres qui nous font de l'ombre. J'espère que vous êtes bien installés. Nous avons un grand plaisir et un privilège de passer une heure en présence de Nina Bouraoui. Je vous remercie de l'accueillir très chaleureusement, c'est sa première venue à Manosque. Bienvenue Nina, merci beaucoup, merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Vous connaissez la formule, hein, quelques mots en introduction, on va échanger toutes les deux autour de votre roman, et puis si bien sûr vous avez des questions, on pourra les accueillir. Je précise que moi il faut que j'enchaîne à 16h30 au théâtre, donc je ne pourrai pas rester très longtemps, mais ensuite la table des libraires vous offrira aussi un espace d'échange pour prolonger avec Nina Bouraoui si vous le souhaitez. Nina, vous êtes née en 1967 à Rennes, d'un père algérien et d'une maman bretonne. Vous avez 2 mois quand votre famille s'installe en Algérie, à Alger, où vous grandissez jusqu'à l'âge de 14 ans. L'adolescence, elle, se passe entre Paris, Zurich et Abu Dhabi, avant donc un retour à la capitale, en France, où vous suivez des études de droit et de philosophie. Votre premier manuscrit, envoyé par la poste, devient « La voyeuse interdite », aux éditions Gallimard, récompensé par le prix du livre inter. C'était une jolie entrée en matière. C'est en 1991. On suivit de nombreux romans, parmi lesquels L'âge blessé, qui est paru aux éditions Fayard, et puis un peu plus tard Garçon manqué. Je cite aussi La vie heureuse, aux éditions Stock, Mes mauvaises pensées, qui vous avait valu le prix Renaudot en 2005, et puis Standard, qui nous avait donné il y a quelques années l'occasion de nous rencontrer à la fête du livre de Bron. Nous allons aujourd'hui parler de votre magnifique 15e roman, tout fraîchement paru aux éditions 16e, j'en ai oublié, 16e roman, aux éditions Jean-Claude Lattès, « Tous les hommes désirent naturellement savoir », sélectionné pour le prix Femina et le prix Médici, qui seront remis les 5 et 6 novembre prochains. Bonne chance pour ces deux prix-là. On croise les doigts avec vous. Première venue à Manosque, je le disais. Quelles premières impressions? Vous êtes toutes fraîchement arrivées. Comment est-ce que vous découvrez la ville à travers les rues, à travers les places?
Vous savez, moi j'ai une sorte d'empreinte du Sud, puisque j'ai grandi près de la Méditerranée. Donc à chaque fois que je reviens sur les terres du Sud, je me sens en territoire familier.
C'est une lumière que vous connaissez bien.
Et qui me manque souvent à Paris.
Donc voilà, une petite dose à Manosque le temps d'un week-end. En préparant cette rencontre, j'ai découvert une information que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu que vous étiez parolière de chansons avant qu'on passe à la littérature. Je voulais vous entendre sur ce point-là. J'ai vu que vous aviez écrit des chansons pour un groupe qui s'appelle Les Vagabonds.
Les Valentins.
Les Valentins. Pour Sheila, pour Céline Dion, pour Garou.
Oui.
Comment est-ce que vous exercez cette... Est-ce que ce sont des commandes ou de temps en temps un coup de cœur? Vous avez envie d'adresser un texte à un chanteur?
Alors les Valentins, c'est particulier. D'ailleurs, je pense qu'elle est assez connue dans le Sud. C'est Edith Fambuena et Jean-Louis Pierrot qui formaient ce premier groupe avant d'être en solo. Et ils m'avaient demandé d'écrire un poème qui durait 20 minutes sur une musique un peu psychédélique. Et puis des années sont passées. Et un jour, mon éditeur de l'époque, Jean-Marc Roberts, a été contacté par Jean-Jacques Goldman. Il cherchait justement des parolières qui n'étaient pas des parolières, mais plutôt des romancières pour des textes différents. Et c'est là que j'ai pu écrire pour Céline Dion, qui a été assez fidèle puisqu'elle m'a redemandé d'écrire pour elle. Donc j'ai écrit 3 chansons pour elle. Et puis Sheila, en fait, la chanson était pour Johnny, mais Sheila l'a prise. Et tant mieux, elle la chante très bien.
C'est une arrière-saison.
Ça s'appelle Une arrière-saison, ouais, sur un amour qui vieillit bien.
c'est un joli thème à explorer. On va donc, bien sûr, en venir au roman pour lequel vous êtes venu jusqu'à nous et qui nous rassemble aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu le plaisir de le lire. « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Très, très beau roman. Pour moi, c'était une lecture vraiment à la fois forte et profonde, saisissante. J'ai passé deux jours dans ce texte avec beaucoup d'émotions et un grand plaisir. Il est construit par petites scènes, par de très courts chapitres, très ciselés, dans lesquels la narratrice se souvient de l'enfance en Algérie, auprès de ses parents et de sa sœur, de la peur, de la sensualité, de la violence, de la liberté, de la nature, du désert. Elle dit aussi, dans d'autres chapitres, quelle femme elle devient dans le Paris des années 80, le Paris de la nuit, des femmes et du Katmandou, le club qui leur est réservé. Elle sait aussi l'histoire de ses parents, l'enfance de sa mère, celle du père, leurs rencontres, leurs mariages, leurs engagements, leurs renoncements ou leurs choix. Devenir, se souvenir, savoir, comme titre de chapitre. Pour que vous entendiez la musique de la langue de Nina Bouraoui, je commence par une courte lecture. Comme ça, on a tous un petit territoire commun, ceux qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas encore lu. Se souvenir, page 102. Nous traçons sur la carte routière notre itinéraire vers le sud. Nous traverserons le petit désert, El Oued, El Goléa, et le grand désert, celui de la transsaharienne et des puits de pétrole. D'In Salah, nous prendrons la route vers Adrar, Taman Rasset. Les paysages se succéderont, sable, terre, pierre, roche. J'imagine le Sahara comme il est dessiné au creux des grottes sur les peintures préhistoriques. Les animaux étranges, les lacs, la végétation. J'imagine la force des séismes et des éruptions volcaniques, la terreur qu'ils ont dû engendrer. Nous venons de ce chaudron, de cette folie. Je le sais, le sens. Moi qui dessine dans ma chambre cet homme sans visage, l'extraterrestre que je ne retrouverai sur une paroi du Tassili, ne sachant plus si je l'avais déjà vu avant de le dessiner ou si je l'ai inventé, possédé par les fantômes du désert. Je commence par ce passage parce que je vous ai entendu dire sur le plateau de François Bunel que ce livre avait été invité, déclenché par ce souvenir des grottes préhistoriques.
Oui, c'est vrai. Et plus précisément de ce dessin que je ne cessais de faire. Donc je ne sais pas si j'ai vu ce dessin et si je l'ai oublié et je l'ai réinventé lorsque j'étais enfant, ou si ce dessin, par une étrange alliance et un étrange hasard, je l'ai après retrouvé dans le Tassili. Pour moi, c'est important parce que ce livre ressemble au travail d'un archéologue. J'ai vraiment eu l'impression de chercher parmi des fouilles, même si ce sont des thèmes qui ne me sont absolument pas étrangers. J'ai souvent parlé de l'identité amoureuse, sexuelle, de l'identité nationale, étant d'une double culture, étant entre deux pays, étant souvent aussi dans la résistance, de se faire accepter dans un camp, puis dans un autre. C'est-à-dire que ma vie a toujours été à la fois une forme de résistance et de mélange. Je trouve qu'il était important aujourd'hui, en 2018, d'écrire un livre qui dit combien la double culture est une richesse, qu'on n'oublie pas une culture au profit d'une autre, c'est totalement faux, et qu'être français, c'est aussi être composé de strates étrangères, c'est ainsi. La France a un passé de colonie, mes parents se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie, mon père était ce jeune étudiant algérien exfiltré d'Algérie parce qu'il avait certainement, et il l'avait, un avenir, et il avait déjà perdu son frère aîné au maquis. Donc il est arrivé en France par un bateau à Marseille. Après, il a pris un train, ça a été très long. Et il a atterri à Vannes totalement par hasard parce que voilà, il avait été recommandé par des professeurs de l'école normale de Constantine à l'époque. Il a passé son bac, puis on l'appelait l'oiseau rare. Et après, il a été aiguillé vers la faculté de Rennes. Il est devenu docteur en économie. Et c'est aussi la force ça, de cette France républicaine qui donne la chance, qui donne la chance à ceux qui ne sont pas français, tout du moins, comme on dit, de souche, mais qui le sont de cœur. Et puis, il rencontre ma mère. Et après la guerre d'Algérie, mes parents décident de s'installer en Algérie. Et ma mère fait partie des rares Français qui arrivent alors que tous les Français quittent un pays meurtri par une guerre très longue, très cruelle.
Bien sûr, elle est à contre-courant en ce moment-là.
Comme toutes les guerres, mais celle-ci encore plus. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la France et l'Algérie étaient deux pays qui s'aimaient passionnément, qui s'aiment passionnément. Mais c'est un mariage houleux qui dure. Et Et la passion a parfois une sorte de dévoration. Je pense que c'est ça qui se passe entre ces deux pays. Alors, ma sœur et moi, nous étions vraiment le fruit de, à la fois de l'amour, mais d'un mariage politique. Je crois que ma mère a toujours voulu dire « Mes enfants sont le fruit de la paix. Je vous montre que c'est possible. » Pour elle, ça a été compliqué. Ma mère a été un modèle absolu, cette femme qu'on appelait la Suédoise, parce qu'elle était très blonde.
Blonde, aux yeux bleus.
Très blonde, les yeux bleus. Très bien accueillie par mes grands-parents algériens, alors qu'ils avaient perdu un fils.
Ils l'ont considérée comme leur fille tout de suite.
Tout de suite, immédiatement. Ça a été beaucoup plus immédiat de la part de mes grands-parents algériens que français, qui eux étaient enfermés dans leurs peurs, dans leurs fantasmes. Ce que l'on peut aussi respecter. Un pays en guerre, ça fait peur. Un pays qui soudain devient indépendant, ça fait peur. Donc moi, je ne voulais pas quelque chose de trop manichéen. Il n'y a pas d'un côté les méchants et d'un côté les bons. Ce n'est pas vrai. Parce que ma mère a dû faire acte de résistance. Quand elle arrive en Algérie, elle est considérée comme une étrangère, comme une Française, comme une ennemie. Donc elle va tout faire pour se faire accepter, pour se fondre à ce pays qu'elle va épouser. Et elle devient étrangement plus algérienne que mon père. Et elle nous fait découvrir ce pays dans sa GS bleue. Et justement, nous allons découvrir le désert. Et pourquoi c'est important, le désert? Parce que j'ai eu la chance de dormir contre la paroi de ces grottes préhistoriques, avec ces dessins d'hommes et de femmes qui chassent, qui se battent, qui s'aiment aussi. Et j'ai toujours eu, moi, le fantasme, justement, du premier homme et de la première femme. Ce livre, c'est un livre sur la liberté et sur le manque de liberté. Est-ce que nous pouvons construire notre destin, ou est-ce que notre destin est traversé par le destin des autres, de nos parents, de leurs parents, et ainsi de suite, de nos ancêtres.
Jusqu'aux hommes préhistoriques.
Oui, parce que ces hommes-là ont vécu des frayeurs absolues, des cataclysmes absolus, des guerres absolues. Et je crois que nous avons des traces, des empreintes de cette sauvagerie-là. Et que toute la vie adulte consiste à cerner, à serrer, à adopter, à devenir le dompteur de notre propre violence. C'est long.
C'est un long chemin. Je vous interroge sur ces grottes préhistoriques et très très vite vous en venez à votre mère. On va voir à quel point le personnage, la figure maternelle est centrale dans votre roman. Avant d'y entrer un peu plus en avant, un mot sur ce magnifique titre que vous empruntez à la métaphysique d'Aristote. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Savoir, c'est l'un des mots que vous réutilisez, le verbe que vous réutilisez pour des titres de chapitres. Naturellement, on sent que c'est un mot qui vous est familier aussi, la nature, naturellement. Le désir, évidemment, qui est là dans toutes les pages. Et puis les hommes, quand même si c'est un livre où là, les femmes sont extrêmement présentes. À quel moment cette phrase qui ouvre la métaphysique d'Aristote est devenue, comme une évidence, le titre de votre roman ?
Mais ce livre a été vraiment très difficile à écrire, très long, très compliqué. Alors peut-être parce qu'il m'a prouvé une fois de plus que je n'étais pas encore en totale possession de ma liberté, en totale possession peut-être de l'honneur, du respect, de la fierté de la personne que j'étais. C'est un peu triste à dire, mais c'est vrai. Ce sont des thèmes que j'ai déjà abordés, mais cette fois-ci, je les aborde de façon plus frontale, et je lève des secrets, notamment un secret qui est dans l'enfance de ma mère, qu'elle m'a souvent raconté à demi-mot. Mais je pense que pour ce genre d'événement terrifiant qui peut arriver à un enfant, la parole est souvent dérobée, étrange, déplacée, et souvent silencieuse. Et moi, je n'ai fait qu'ouvrir une porte de chambre d'enfant et je la referme, donc je dis très peu de choses. Mais je sais que cet événement-là a certainement traverser des peurs d'enfants et surtout ma volonté de sans cesse reconstruire et réparer ma mère, ce qui est un travail infini qu'il ne faut surtout pas faire et qui est totalement voué à l'échec. Alors, un soir de grand désarroi, moi j'ai fait deux années de philosophie, j'étais assez cancre, mais j'ai quand même étudié la philosophie et les grands textes, notamment ceux de Platon, d'Aristote, de Saint-Augustin. Et un soir où je n'arrivais pas à écrire, j'ai ouvert la métaphysique par hasard. Et cette phrase qui ouvre le livre m'a paru comme une phrase à la fois fétiche et talisman et protectrice. Ce n'était pas mon titre. Mon titre, j'avais un titre de travail qui s'appelait Sahara, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais mon éditrice, Karina Hossin, qui est un excellent éditeur, m'a dit « c'est le titre ». Et c'est vrai, parce que finalement, ce titre, vous l'avez dit, rassemble tous les thèmes. Mm-hmm. Les hommes de façon plus large, avec les femmes.
Les hommes et les femmes.
Le désir, le savoir, la connaissance. Moi, j'ai l'absolu désir de tout savoir. Mm. Et l'absolue défaite, justement, de savoir que je ne saurais jamais. Qui sommes-nous ? De quoi sommes-nous faits ? De quoi sommes-nous constitués ? Chacun d'entre nous est constitué d'une multitude de parts, d'une multitude d'histoires, d'une multitude de sensations parfois qui ne sont pas les nôtres. Et je crois que ça s'explique très bien en psychanalyse. Mais la littérature, même si je ne crois absolument pas en l'écriture thérapeutique ou l'écriture qui guérit, c'est pas vrai. L'écriture, c'est la littérature. L'écriture, c'est l'œuvre. L'écriture, c'est le travail en train de se faire. Ce n'est pas un médicament. C'est un médicament certainement pour les lecteurs. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et c'est vrai que ce livre a une tournure beaucoup plus militante que mes autres livres. Parce que peut-être qu'à 51 ans, on n'a plus peur. Même s'il a été compliqué à écrire ce livre. Mais je n'ai plus peur d'ouvrir la porte de ce club réservé aux femmes dans les années 80, le Katmandou, et de raconter comment il a été si difficile pour moi, alors que j'avais 18 ans, d'occuper ma nature, d'occuper mon identité amoureuse, sexuelle, de fréquenter des gens que je n'aurais certainement jamais fréquentés, de loin, parce que j'étais assez timide et que j'étais au bar et que j'étais protégée par Elou Lapérin, qui était une figure pour les femmes dans la nuit très importante, qui a fait beaucoup de choses pour les femmes homosexuelles. Mine de rien, parce que la nuit est certes un simulacre et souvent un mensonge, mais c'est une façon aussi socialement de se rassembler, même si nous n'avons strictement rien à voir. Alors le même désir ne rassemble pas du tout, ça c'est faux, ce n'est pas vrai, mais il y avait quelque chose, en 85, il ne faut pas oublier que c'est l'explosion du sida, et il ne faut pas oublier que ce sont surtout les hommes homosexuels qui sont touchés, mais que les femmes ont un vrai tabou là-dessus, qu'on ne dit rien. La parole est assez confisquée aux femmes à cette époque-là.
Il y a des pages qui interrogent ça. Cette menace concerne-t-elle les femmes ? Peut-on se transmettre le sida de femme à femme ? Il y a
des passages qui posent la question. Oui, mais je crois que moi, je fais partie vraiment de cette génération où nous avons tous vécu, hétérosexuels, bisexuels, homosexuels, nous avons tous vécu avec ça. Et je pense que ça a changé la donne et ça a changé les rapports amoureux. Il y avait une sorte, non pas de mission impossible à tomber amoureux, mais lorsqu'on tombait amoureux, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire défier la société et défier la mort. Alors, il se trouve, heureusement, que finalement, les femmes ont été quand même très épargnées par cette épidémie. Mais moi, je fréquentais beaucoup de jeunes garçons gays. Et donc, j'étais le réceptacle de leurs angoisses et qui étaient évidente, réelle, terrifiante, et on l'a quand même nommé le cancer gay très longtemps, et je crois que, voilà, moi je suis une grande admiratrice d'Hervé Guibert, et il a été un des auteurs à tellement bien évoquer, dire l'angoisse, que ça a été peut-être la dilution des personnes, la dévastation des personnes, comment dans la nuit on a pu se perdre aussi à cause de ça.
En vous écoutant, je retiens que vous, à plusieurs reprises, vous avez évoqué l'idée de la protection. Vous avez dit protéger, la protection, réparer, guérir. Il y a vraiment ce thème qui revient. Et pour revenir à cet épisode traumatique, traumatisant que vous évoquez sans qu'on le dévoile aux lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre, que subit votre mère et qui est donc transformée en littérature dans ce roman-là. Suite à cet épisode-là que vous appelez la vision sale, il y a cette phrase « Plus tard, je m'infligerai le devoir de protéger toute femme du danger, même s'il n'existe pas. »
Oui, c'est vrai. C'est assez névrotique d'ailleurs et assez insupportable aussi pour peut-être pour les autres, peut-être pour la femme que j'aime. Mais je crois que avec ma mère, c'était évident que nous formions une sorte de couple étrange, parce que moi, j'ai été élevée par un père assez absent qui voyageait beaucoup. Et je vous dis, ma mère a joué le rôle de l'Algérienne et de l'Algérien et m'a fait aimer mon pays peut-être comme personne, encore plus que mon père. Mon père était celui qui apprenait à jouer au foot, à jouer à nager, à sauter, voilà, à sauter des rochers. Il m'apprenait la proximité des hommes, donc j'étais totalement en admiration. Quand je dis je viens du pays des voyous, c'est pas du tout péjoratif, mais c'était ces jeunes garçons tellement libres. La liberté était virile et la liberté était des côtés des hommes. Donc très vite, moi, il a été nécessaire et absolument évident qu'il était plus simple d'être un faux petit garçon qu'une vraie petite fille. Mais ma mère m'a donné une grande leçon de courage, de bienveillance, d'amour, parce qu'elle s'est faite agresser assez souvent en Algérie. Mais elle avait aussi beaucoup d'amis algériens. C'est un peuple beau, fort, courageux, très aimant. C'est la ville qui rend fou, c'est la ville qui rend violent. Et moi, j'ai grandi vraiment dans la nature. Je ne connais pas très bien Alger. Finalement, moi, je vivais sur les hauteurs d'Alger. Je voyais le port de loin, la mer de loin. Mais je connais très bien la campagne, la montagne, le désert. Et je viens de là. C'est-à-dire que j'ai appris la lumière qu'il y a dans mes livres, elle vient de ce pays. La peur aussi vient de ce pays, parce que ce pays, on le sait, dans les années 90, a été rattrapé par ce que l'on a appelé la décennie noire. Et c'est drôle parce que ce livre n'est pas là par hasard. Il est aussi pour parler de ce peuple algérien qui a été abandonné pendant les années 90, lorsque tous les attentats ont balayé la France de manière absolument épouvantable, il y a quelque temps, et hélas, ça continue. Et c'est international, je me suis totalement reconnectée à ces années 90 où l'Algérie ressemblait à une part du continent africain détaché. Pour moi, c'était une part de continent
isolé.
Qui flottait. Personne ne s'interrogeait, personne ne voulait voir, parce que c'était abominable. C'était abominable de savoir qu'il y avait des villages dévastés, des carnages horribles, des villages plongés dans le noir, on coupait l'électricité et les assaillants arrivaient dans le noir avec des couteaux, des haches. Il y avait quelque chose de tellement barbare et de tellement sauvage et on ne savait pas qui était l'ennemi, il y a eu des vengeances et ça a duré 10 ans. Moi, on a assassiné mon enfance, vraiment. J'ai perdu des amis et tous les lieux où il n'était question que d'esthétisme, de liberté, tous ces lieux où j'ai pu admirer la beauté des femmes dans les criques sauvages, où j'ai pu jouer, plonger, aimer, être libre. Pendant 10 ans, on me l'a confisqué. Et ce livre, c'était aussi pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont gardé des villages avec des fusils, tout simplement. Souvent des Kabyles. Les Kabyles sont des grands résistants, c'est connu. Alors c'était bien de... Vous savez, ce livre, c'est comme un vase que j'ai lancé par terre et je ramasse les parts. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de parts manquantes. J'ai l'impression que j'ai tout rassemblé, j'espère.
En tout cas, les parts sont très liées. C'est une écriture effectivement fragmentée en petits tableaux, très, très travaillés, très ciselés, comme si on assistait à chaque petite scène les unes après les autres, qu'elles pouvaient à la fois être isolées et évidemment vous les lier les unes aux autres parce qu'il y a des échos entre différents moments que vous racontez. Comment vous les avez agencés justement, ces paragraphes-là? On le dit, les titres sont des verbes, se souvenir, devenir, savoir. Pas de chronologie dans le récit, mais plutôt des morceaux épars qui se répondent, qui se succèdent, qui font écho. Comment vous les avez construits et agencés les uns par rapport aux autres?
Ça a été mon éditrice qui a corrigé le texte et qui est ici, qui s'appelle Charlotte Von Essen. On a essayé vraiment de faire coïncider le plus possible, de faire se correspondre toutes ces parties, parce que tout le récit est au présent, mais il y a une sorte de présent antérieur ou de présent passé qui raconte ce que je sais, ce dont je me souviens. Et puis après, il y a le être, c'est-à-dire occuper ce que l'on est. Alors, c'est parce que la mémoire est une sorte de château. Et j'ai ouvert chaque porte de ce château. Et j'ai encore découvert des cadavres sous les lits ou dans les placards. Et je crois qu'on n'est jamais gêné. Au départ, je voulais faire un journal et puis ça ne marchait pas du tout. Et finalement, j'ai séparé. J'ai séparé parce que nous savons des choses que on nous a racontées. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tous les cas, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est savoir. Ce souvenir, c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu en Algérie, ce que j'ai vécu à Rennes, chez mes grands-parents. Ce que j'ai vécu dans les années 80, lorsque je décide de me rendre 4 fois par semaine au Katmandou, toute seule, et je commence une sorte d'épopée intérieure et amoureuse, parce que je veux occuper, exactement comme je disais tout à l'heure, la nature. Qui suis-je? À force de confondre le désir et la tendresse amicale, à force de confondre l'amour et l'amitié, parce que tous les adolescents qui ont une identité amoureuse différente tombent dans ce piège, tout d'un coup, autant se dire, allons chez les spécialistes, sans du tout les mépriser, mais allons dans un endroit qui va me correspondre. En fait, pas du tout, ça ne me correspondra pas du tout, mais en tous les cas, je vais voir et je vais apprendre aussi mon métier d'écrivain, c'est-à-dire que ces nuits-là, je vais les éclairer par des jours d'écriture. Et je crois que nous sommes... Être adulte, c'est ne jamais trahir son enfance, enfin, être un bon adulte, et ne jamais trahir son adolescence. Donc, ce qui m'a précédé, ce qui a constitué mon enfance et mon adolescence, ce qui constitue ma jeunesse et ce qui constitue mes réflexions de femme adulte dans ce livre, ne peuvent que s'imbriquer parce que tout appartient à la même personne.
C'est vous qui faites le lien et c'est nous, lecteurs, qui le faisons aussi en tournant les pages. Revenir sur cette figure maternelle, je crois qu'à un moment donné, votre projet était de faire un livre sur la mère, sur la figure maternelle. Elle est extrêmement présente. Je vous lis ce passage, ce souvenir. En Algérie, ma mère porte des robes kabyles à fleurs dans la maison, des djellabas, des boubous africains, des vêtements si amples que je peux m'y glisser et saisir son corps comme si je l'avais réintégré. Il n'y a pas eu de séparation. Peau à peau, chair à chair, cœur qui bat près du cœur de l'autre, sang contre sang, vie redoublée par la vie, pas de rupture, pas de mort. Ma mère est une mère animale, donnant les baisers qu'elle n'a pas reçus, sans les compter, sans les contrôler, répondant aux étreintes sans fin, aux promesses folles, à la vie, à la mort, ne jamais se quitter, rester collée, s'épouser. Parfois c'est trop, ma grand-mère. Tu ne devrais pas lécher tes enfants ainsi. Ma sœur, vous me dégoûtez. Nous avons inventé un jeu, nez dans l'œil, un code dans la rue, main dans la main, une pression, je t'aime, deux pressions, marche plus vite, on nous suit, trois pressions, bonheur absolu, zéro pression, le temps passe et il est beau quand nous sommes ensemble. Je plonge des rochers pour l'épater, monte aux cimes les plus hautes, touche le ciel pour la contaminer par la beauté et la poésie. Je veux guérir ses plaies, apaiser ses tourments, la venger de ses ennemis, je lui promets de la chérir, de la protéger ma vie durant. Je la trahirai forcément. Et je chante la maladie d'amour parce que c'est nous. La présence maternelle est extrêmement forte. Il y a une sorte d'Œdipe inversé. Cette petite fille est complètement amoureuse de sa mère. Vous dites ce couple qu'elle forme tous les deux et ces phrases qui lui sont consacrées. Il y avait ce projet-là initialement. Est-ce qu'elle prenait encore plus de place et qu'il a fallu... La canaliser un tout petit peu pour que d'autres choses puissent s'exprimer, elle qui prend toute cette place dans l'affection?
Je ne sais pas si c'est ça. En fait, je crois que, comme je disais, nous ne connaissons pas ce que nous aimons. Alors, quand j'ai commencé à écrire sur ma mère, il y avait des pans de son histoire qui m'échappaient. Ma mère est née au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a connu la guerre, c'est une enfant de la guerre. Alors, pour elle, c'était un jeu parce qu'elle était petite, elle était à la campagne. Elle était élevée dans un milieu... plutôt bourgeois. Ses deux parents étaient chirurgiens-dentistes et par un père assez violent, assez dur, et une mère qui ne savait pas transmettre les baisers. Et à l'âge de 20 ans, elle rencontre mon père et puis elle est chassée de chez elle. Donc ma mère a une sorte de manque d'amour, mais qu'elle n'a absolument pas répliqué. Elle a répliqué par une force d'amour et une force de vie extraordinaire. Moi, ma mère, quand j'étais enfant, c'était vraiment mon héroïne, c'était le modèle. C'était cette femme blonde qui conduisait sa GS avec des gants en cuir et qui prenait la transsaharienne. On épluchait d'ailleurs des oranges pour la réhydrater et on lui chantait des chansons de Supertramp parce que c'était l'époque, parce que c'est aussi un livre sur les années 70 et 80. Et je crois que je me suis heurtée à l'impossibilité d'écrire sur ma mère. Certainement par respect pour elle. C'est compliqué, un livre, vous savez, c'est très facile de faire du mal avec les mots. Les livres sont parfois des petites bombes atomiques qu'on n'imagine pas. Enfin, les écrivains le savent très bien et peuvent en user très naturellement. C'est difficile de se retenir. C'est facile d'écrire pour révéler, froisser, brutaliser. Moi, j'ai préféré écrire une sorte de panthéon amoureux. Aussi pour ces femmes de Katmandou, Ellie, Laurence, Lise, beaucoup sont mortes hélas, enfin, j'ai pas du tout envie de plomber l'ambiance, mais parce que c'était des gens de la nuit et qui fréquentaient la nuit sans limite, dans l'excès le plus total. Et bizarrement, je me suis invitée très vite dans l'histoire de ma mère, parce que oui, nous formions ce drôle de couple, oui, nous avions cet amour absolu, et ma mère m'a appris la littérature. Ma mère C'est le livre, un livre toujours contre sa poitrine, comme si elle tenait un enfant contre elle. C'est Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, mais aussi Jean-Louis Borry, Yves Navarre. C'est ma mère, c'est le papier, les journaux, c'est la connaissance. Je crois que je suis aussi un écrivain, un petit peu grâce à elle.
Dans l'appartement d'Alger, il y a plusieurs balcons en dalles rouges. Ma mère a installé une chaise longue sur celui qui prolonge la chambre parentale. Il est plus large que ceux du reste de l'appartement et protégé du vis-à-vis par une rangée de roseaux, mais elle n'y prend jamais le soleil nu ou en maillot de bain. Elle reste habillée pour lire, par respect. Elle tient ses romans contre elle. Il ne faut pas la déranger. Quand elle ferme les yeux, j'ai l'impression qu'ils s'endorment ensemble, chair contre chair, que les livres sont vivants. Il y a ce corps maternel et effectivement, vous avez cette très très belle formule qui dit « J'écris parce que ma mère tenait ses livres contre sa poitrine comme s'ils avaient été des enfants. »
Oui, j'étais très jalouse.
Très jalouse des livres contre sa poitrine.
Des temps de lecture. La lecture, c'est du temps, c'est de la solitude. La lecture, c'est accéder à un autre monde qui n'est pas son monde. C'est aussi,
elle vous échappait.
Ma mère était une femme libre et une femme très indépendante. Je crois que la lecture était une façon de refaire sa vie parce que je n'ai jamais su et je ne saurai jamais si ma mère était une femme heureuse. J'en suis pas certaine. Mais elle nous a, en tous les cas moi, elle m'a donné une certaine image du bonheur, alors qu'elle était peut-être fausse. Mais elle a tout fait pour. Et pour moi, le bonheur, c'était la liberté et la littérature. Donc, je n'ai pas trop changé.
vous êtes restée libre jusqu'au bout. On parle beaucoup de cette figure maternelle. Je vous laisserai découvrir les autres pages qui sont consacrées à cette mère magnifique, fascinante. Le père est aussi très présent. Le livre est dédié à vos parents. Le personnage du père, la figure du père est aussi très présente. Comme vous le disiez, c'est celui qui vous apprend le sport, la liberté, mais qui vous laisse aussi avec beaucoup de tolérance, qui laisse en tout cas grandir l'enfant qui l'élève comme il le souhaite, comme il a envie de s'habiller notamment. Je descends avec mon père, main dans la main, place d'Hydra. Je porte un bas de survêtement avec un débardeur blanc et des claquettes. On me laisse m'habiller comme je l'entends. Mes idoles sont les garçons d'Alger qui fabriquent des planches à roulettes et s'accrochent aux voitures, aux trolleybus. Ils sont libres, beaux, musclés, ce sont mes frères déchaînés. Je rêve de les rejoindre dans leurs jeux dangereux. Ce sont eux qui insultent ma mère, s'exhibent devant elle, la désirent. J'ai leur violence, mais je la dirige contre moi. Je fais avec mon père le tour des commerçants, le boucher, l'épicier, le boulanger, le fleuriste. Ils passent leurs mains dans mes cheveux courts pour me saluer, m'accepter. Je le comprends ainsi. Je me serre contre mon père. Je suis parmi les hommes, l'un d'entre eux, et je suis l'homme, le fils de mon père. Vous avez modifié un peu ma vision de cette expression « garçon manqué », qui était le titre d'un roman qu'on a évoqué dans l'introduction, qui a été très très apprécié et très traduit. Vous dites un peu plus tard que cette jeune fille veut absolument un petit frère pour la libérer de ce poids d'être le garçon. Et vous avez cette phrase qui dit « Je suis le fils qui manque aux yeux de tous ». Et « garçon manqué », je l'ai lu autrement du coup. C'est le garçon qui manque.
Ça, c'était mon interprétation, parce que je crois que mes parents ne voulaient pas du tout un garçon. Et je pense que, vous savez, l'identité d'un enfant, moi, je suis toujours très... comment dirais-je, je fais assez attention en ce moment. Je sais qu'on parle beaucoup du genre et des questions de genre, et il y a beaucoup de théories, beaucoup d'études, et très bien. Mais je pense que voilà, une petite fille est une petite fille, un petit garçon est un petit garçon, et puis il y a des enfants qui sont parfois entre deux, et il faut les regarder aussi. C'est important parce que ces enfants-là sont souvent dans une forme de solitude, alors peut-être un tout petit peu moins à notre époque, mais en tous les cas, dans les années 70, moi, je savais que j'étais différente. On me l'a toujours fait remarquer. Pas dans ma famille, parce que grandissant en Algérie, dans les années 70, il y avait, comme ça, c'était un pays un peu sauvage. Quand je dis sauvage, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire totalement un peu en friche et libre, en train de se construire. C'était comme ça. Dans la nature, je pouvais être la personne qui était au fond de moi. je ne mentais pas, on ne me laissait pas mentir. Quand j'arrivais en France, il fallait m'habiller, il fallait me féminiser, et ma grand-mère m'a souvent fait des reproches lorsqu'on disait « bonjour jeune homme », etc. Et c'est elle qui m'a inculqué la honte de ce que j'étais. Moi, je n'avais pas du tout honte. Je savais que j'étais dans une identité un peu floue, un peu trouble, que ce n'était pas le désir, d'avoir un garçon, mes parents, pas du tout, mais j'étais quelqu'un de différent parce que je me considérais déjà comme une artiste. J'écrivais beaucoup, je dessinais surtout beaucoup. Et pour moi, un artiste était à la fois un homme et une femme, un garçon et une fille, et ni l'un ni l'autre. Qu'il y avait comme ça une sorte de troisième genre, et être un artiste était un troisième genre. Alors oui, le garçon qui manque, c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il y ait un vrai garçon et qu'on arrête de me... On me persécutait. Enfin, à l'école, j'étais persécutée. Après, l'adolescence m'a délivrée parce que je suis devenue une vraie jeune fille. Parce que mon corps s'est transformé. Mais ce petit garçon, il est toujours là. Et c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui écrit, c'est lui qui décide. Et tant mieux. Je trouve que nous devrions tous accepter nos parts de féminité, nos parts de virilité. Et c'est à l'école que l'on doit enseigner ça. Moi, ce livre, je l'ai écrit aussi parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais écrit un texte pour un recueil qui s'appelait Les Lucioles, destiné aux jeunes de l'association Le Refuge. Le Refuge, il y a des associations partout en France qui accueillent des jeunes adolescents qui sont expulsés de leur foyer, expulsés de chez eux parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont homosexuels. Leur père, leur mère ne veulent plus d'eux.
Et les chassent.
Et il était important pour moi d'écrire le passé d'un adulte qui n'est pas dans la norme, son enfance, son adolescence. Un adulte, il est fort. Un adulte, il a les armes. Il a soit la force, soit la douceur. Un adulte, il a les mots. Un enfant, il ne les a pas. Un adolescent non plus. L'adolescent, c'est pire encore. Parce que l'adolescent, il peut avoir les mots, mais il ne peut pas les exprimer. Il faut beaucoup de force pour quitter le clan des forts. Il faut beaucoup de force pour quitter la meute, pour quitter le groupe. Lorsque la jeunesse on a envie de ressembler à tout le monde quand on est jeune.
De se fondre dans la meute, justement.
Justement, parce que c'est un passage, l'adolescence est un passage suffisamment délicat, difficile. Le corps se transforme hormonalement, on est complètement chamboulé. On a des tentations, on a des frustrations, on a des peurs. Qu'est-ce que la sexualité ? Comment on envisage la sexualité lorsqu'on est un adolescent ? Donc ce livre, c'était aussi... j'ai pensé à ces enfants du refuge et je me disais, même si on est en 2018, n'oublions pas qu'il y a 5 ans, pendant les débats pour le mariage pour tous, quand on insultait Madame Taubira, quand on la traitait de singe, quand on lui disait qu'on allait lui lancer des bananes et des cacahuètes, parce qu'elle était dans le clan, justement, des minorités. Et je pense que les minorités, justement, ont tout intérêt à se rassembler et à être tellement, tellement vigilants. Moi, j'ai été très, très choquée. Je me suis sentie humiliée quand j'ai vu des enfants qui portaient des pancartes à quand la zoophilie légalisée, à quand l'inceste légalisée.
À quand les chiens entre eux.
Oui, on a tout confondu. Et on ne se rend pas compte comment le langage, comment les mots sont des épées, sont des pistolets, sont des armes de destruction massive. Et j'ai souvent pensé, je me suis dit, parmi tous ces enfants totalement instrumentalisés par leurs parents, il y a peut-être un petit enfant qui se sent différent. N'oublions pas que les jeunes adolescents, préadolescents homosexuels sont confrontés 7 fois plus au suicide que les autres. Il ne faut jamais l'oublier. Mais c'est très, très, très compliqué de pouvoir s'exprimer sur son identité amoureuse parce qu'il y a un écran de fumée qui s'appelle la sexualité et qui entraîne un autre écran de fumée qui s'appelle l'interrogation, le dégoût. Et moi, je raconte ce que tous les homosexuels ont ressenti un jour dans leur vie, leur propre homophobie. C'est la pire des violences contre soi. C'est la pire des trahisons contre soi. Son propre rejet. En 85, les femmes rasaient les murs quand elles se rendaient au Katmandou. Et ce lieu qui est d'ailleurs devenu un théâtre, c'est rigolo, c'est pas un hasard. Je pense qu'il doit être très chargé, ce théâtre, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de disputes, beaucoup de règlements de comptes, parce que l'amour était un tel enjeu, je l'ai déjà dit, beaucoup de passion. Imaginez les femmes entre elles, comme ça peut être, et surtout dans la nuit. Mais oui, on rasait les murs, nous étions en 85. Alors aujourd'hui, en 2018, bien sûr qu'il y a une parole qui s'est libérée.
Mais dans les deux sens.
Mais la parole de haine s'est aussi libérée. Elle est étonnante. Alors certainement, Internet a légalisé la parole des imbéciles et a rendu
une caisse de résonance
à tout le monde. Mais tant mieux, on sait que ça existe.
Et donc, il faut être d'autant plus vigilant.
Oui.
Et l'importance de ce livre-là est encore plus remarquable.
Oui, et puis je pense que ce livre aussi a une forme d'actualité, hélas, assez triste, mais... Il se relie aussi à la violence faite aux femmes. Et je dis souvent que tant que les femmes seront persécutées, maltraitées, mal aimées, toutes les autres minorités, je ne dis pas que les femmes font partie des minorités, mais pour moi, elles font encore parfois partie de la fragilité, des camps des fragiles. Et tout ce mouvement où les femmes ont eu la parole, où parfois elles ont été accusées aussi d'abus, c'était exagéré, ça ne se faisait pas, c'était de la délation. Dans toutes les révolutions, bien sûr, il y a parfois des espèces d'abus. Mais la parole donnée aux femmes, pour moi, c'est une révolution tellement positive et tellement magnifique. Mais tant que les femmes ne seront pas entendues, les minorités ne seront pas entendues ni respectées. Ça, j'en suis convaincue.
Vous racontez dans ces pages, je vous en prie. j'ai brisé votre élan, je vous en prie. vous évoquez cette homosexualité, cette sensualité. C'est ce que le personnage découvre dans ces pages, dans ce bar du Katmandou. Je vous lis le passage de l'arrivée de Julia. C'est un mardi soir, je suis au bar du Kat. Elle s'assied à une table, près de la piste. Une sorte d'affaissement se produit. Affaissement de l'espace, de la lumière, de la musique, des femmes qui l'entourent. Elle prend tout, ou plutôt son corps prend tout. Cela va très vite. Je veux qu'elle soit mon début, comme la première scène d'un film. Je pense que sa peau, ses baisers, me porteront chance, qu'elle sera un talisman. Elle ne reste pas, je me sens abandonnée. Elle s'appelle Julia, je ne sais rien d'autre. Le mot affaissement est en italique, comme une sorte de coup de foudre ou d'apocalypse, quelque chose qui descend.
Oui, parce que c'est la première vraie rencontre. Ça existe vraiment et c'est dans un lieu où il n'y aura certainement pas de méprise. Alors je ne dis pas que c'est certainement pas la plus belle des rencontres, ça, c'est une évidence, c'est le plus grand fiasco du monde d'ailleurs.
Oui, ne dévoilera pas la suite de la relation.
Mais tout d'un coup, pour un cœur d'artichaut qui a 18 ans et qui sort seul et qui rentre seul et qui longe les murs, qui a en plus, qui est toujours un petit peu dans la peur, parce que n'oublions pas que moi j'ai grandi dans un pays où la rue pouvait être dangereuse, mais le Paris des années 80 était extrêmement paisible et j'avais la chance d'habiter dans un quartier magnifique près du Luxembourg où il ne se passait pas grand-chose la nuit. Mais c'est toute la peur de la transgression aussi, de devenir ce que les autres, ce que la norme n'est pas. C'est très difficile de vivre lorsqu'il n'y a aucune représentation de soi, de son intimité en dehors. Moi, j'allais à la faculté d'Assas, parce que j'ai commencé à faire du droit avant de faire de la philo, et la faculté de droit d'Assas n'était pas, les étudiants n'étaient pas les étudiants les plus tolérants et les plus ouverts. Mais j'ai été très heureuse d'être ce que j'étais, parce que j'avais soudain, quand j'arrivais le matin dans l'amphithéâtre, j'avais très peu dormi, je savais que j'avais pris un pas de plus sur la vie que les autres. Je savais. Alors, c'est vrai que dans ce lieu-là, il y avait des prostituées, des anciennes détenues, des femmes très âgées. Moi, j'avais 18 ans. Je dis très âgée aujourd'hui. Bien sûr qu'elles n'étaient pas très âgées. Mais pour moi, qui était vraiment... On m'appelait bébé. On me demandait à chaque fois ma carte d'identité. On pensait que je mentais sur mon âge. Mais j'ai appris. J'ai appris tant de choses dans cette nuit qui me paraissait comme une nuit... C'était un peu une homosexualité old school. Et j'avais l'impression un peu vraiment d'être au cœur du spectacle. C'était comme un théâtre. Ces femmes, c'était un théâtre. Et c'était fascinant. J'ai vu des femmes en costume trois pièces, j'ai vu des femmes qui portaient le monocle. Alors c'était en plus, Eloula avait fait un endroit qui était en effet pratiquement exclusivement réservé aux femmes, mais il y avait quand même parfois Serge Gainsbourg qui pouvait passer, Catherine Deneuve qui venait prendre un verre. Il y avait comme ça quelque chose d'assez chic de venir dans cet endroit qui n'était pas un endroit de dépravation, bien au contraire. Toutes les femmes portaient des tailleurs, il y avait des princesses saoudiennes. C'était, moi je pense que j'ai vraiment compris tout d'un coup que le réel était trop petit pour moi et que l'écriture allait élargir mon réel et que cet endroit-là faisait partie vraiment de l'amorce de mon écriture. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire La Voyeuse Interdite à cette époque-là pour reconquérir le cœur de Julia. Je n'ai jamais réussi, et tant mieux, parce qu'elle n'en valait pas la peine. Et aussi, pour me
ça
dire...
Ça c'est dit, hein. Hop là, boum. Julia, aussi, si tu nous écoutes.
Et aussi, pour me dire... cette chose atroce, on me pardonnera ce que je suis si je suis un écrivain. C'est affreux. C'est encore une violence.
Vous écrivez ça, j'écris pour me faire pardonner.
Oui, vraiment.
Mon homosexualité.
Oui, parce que je me disais que tout d'un coup, je devenais légitime, je m'achetais une sorte de respectabilité. Alors que les écrivains ne sont pas forcément des êtres respectables.
Si, bien sûr. Si. En tout cas, ceux qu'on invite ici, absolument, on les
choisit comme d'ailleurs. Ça. Tant mieux, d'ailleurs. Moi, j'aime bien l'irrespect. Ça ne me dérange absolument pas. Mais ça, c'était une angoisse de jeunesse, une peur de jeunesse. C'est très... il ne faut jamais perdre de vue que c'est très compliqué d'être en marge de la société. Même si j'ai beaucoup de chance, moi j'exerce un métier que j'adore, dans un milieu qui me protège, c'est pas pour moi que je parle, hein. Je veux pas pleurer pour moi, du tout. Mais écrire, c'est aussi avoir la mission de pouvoir entrer dans la chambre de quelqu'un qui souffre, et notamment un adolescent. J'ai un public, très bizarrement, j'ai un public de tout âge, mais j'ai aussi un public très jeune. Les parents en 91 qui me lisaient ont eu des enfants et ces enfants me lisent aujourd'hui. Et je reçois beaucoup de courriers de jeunes adolescents qui me disent merci. Et nous sommes en 2018. Donc aucun combat n'est gagné, jamais. Restons vigilants. Il faut faire attention parce que l'extrémisme, la pensée rétrécie, n'est jamais très loin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui a peur, qui est terrifié, qui a peur de l'étranger et de l'étrangeté. Et les minorités font partie de l'étrangeté.
Vous aviez les deux choses en vous, cette mixité culturelle, cette étrangeté.
J'ai tout cumulé.
Vous êtes couteau suisse, multicarte. Est-ce qu'il faut entendre dans vos propos, parce que vous avez ces phrases « je commence à écrire quand je commence à fréquenter le CAT », est-ce qu'il faut entendre dans vos phrases le fait que s'il n'y avait pas eu cette nature homosexuelle, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'écriture et du coup pas l'écrivain ?
Je ne sais pas, peut-être que ça a développé chez moi une sensibilité, une façon de voir le monde différente. Je crois que écrire, c'est restituer le monde avec une sorte de d'esthétisme et de poésie très personnelle. Moi, lorsque j'écris, j'entends des sons, je vois les couleurs. Je me rends souvent en Algérie par mon écriture. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir hein, de décrire la lumière d'Alger, la baie d'Alger, les criques, ces routes incroyables, la campagne. L'Algérie est un pays vierge qui ne s'est jamais ouvert au tourisme. Et encore plus dans les années 70, il y avait cette sorte... c'était une beauté brutale. Alors je crois qu'enfant, l'enfant que j'étais, annonçait l'adulte que j'allais devenir. Peut-être qu'en effet, de ne pas faire partie... de la majorité m'a rendue plus sensible, plus à l'écoute. Je crois que ça m'a ouvert l'esprit. Je pense que j'aurai toujours une tolérance. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, loin de là. J'ai beaucoup de défauts. Mais en tous les cas, j'ai à l'écoute l'humanité que nous avons... Vous savez, moi, je pense que toujours une seule main nous sépare de l'autre. Dans une foule, lorsque quelqu'un vous demande le chemin, et si vous lui souriez, si vous le regardez dans les yeux, il y a quelque chose toujours, il y a une sorte d'émotion. Et je pense que la politique, finalement, n'existe pas à travers un seul homme, un président ou des ministres ou un parti. La politique, c'est dans notre quartier, c'est dans notre rue, c'est dans notre immeuble. Je crois que moi, je serai toujours du côté des fragiles, toujours du côté de ceux qui marchent... qui marche pas droit.
Votre roman, on va y revenir sur ce qui marche pas droit, parce que vous avez une phrase qui est très très importante, mais vous entendre sur l'ouverture et la fermeture de ce roman sur le bord de scène. Il y a une scène qui fait écho à la première quand le roman se termine. Pourquoi ce long du fleuve ? Pourquoi ce fleuve qui ouvre et qui ferme ce roman ?
Parce que je marche beaucoup dans Paris. J'adore Paris. Paris est resté pour moi la capitale de la promesse. Monter à Paris n'est pas une expression en l'air. Je crois que Paris m'a permis de vivre de mon métier, m'a permis de vivre ce que je voulais vivre, certes au début avec honte, mais après sans fierté, parce qu'on n'a pas à être fier. Il n'y a aucune fierté là-dedans, à part la fierté de ne pas se trahir et de ne pas se mentir. Et la scène, pour moi, la scène, c'est le temps, c'est la beauté. La scène, c'est la seule partie fluide, j'allais dire, de Paris, qui reste une ville. Moi, j'ai grandi auprès de la nature, auprès de la Méditerranée. Je suis vraiment une femme du Sud. Et de plus en plus, en vieillissant, parce qu'on revient toujours
à la source.
À la source et à ses racines. C'est mauvais signe, ça veut dire qu'on vieillit.
Mais oui, ça me guette aussi, ça me guette.
Et la scène, pour moi, la scène était très symbolique. Et à chaque fois, vous savez que je repasse rue du Vieux-Colombier, assez souvent, finalement. J'ai une immense tendresse pour la jeune fille de 18 ans que j'étais. Et Paris a cette mémoire et ce souvenir-là.
Cette scène, moi, elle m'a fait un écho très particulier. En lisant page 47, ce passage-là, j'avais la scène en tête, ce flot, ce fleuve qui coule. Et puis, je lis page 47, « Devenir ». La bande d'Élie m'accepte tout de suite. Je retrouve les filles avant de sortir aux quatre. Cela me rassure. Il y a peu, on m'a suivi à deux reprises, toujours le même homme, en par-dessus avec un chapeau. Les murs de la ville m'écrasent. Je lis que des hommes et des femmes tombent malades de ne pouvoir vivre leur homosexualité. C'est très dangereux de réprimer ces désirs. Cela peut conduire à la folie et à d'autres formes de violence. C'est comme si on détournait le sens du sang dans son corps, comme si on l'inversait. Et là, j'ai repensé au fleuve, à détourner des fleuves. Et je me suis dit que détourner le sang, détourner des fleuves, il y avait quelque chose d'un peu parallèle dans les images que vous installiez.
Oui, certainement. Il faut suivre le cours de son propre fleuve, peut-être. Mais pour de réprimer sa nature, ça, j'en reste convaincue, mais c'est valable pour tout. Même réprimer un grand amour peut engendrer une pathologie. Et puis c'était aussi pour dire que l'on ne devient pas ce qu'on est, qu'il y a un passé à ce que l'on est. Et surtout, toujours écarter cette chose absolument abominable qui s'appelle la perversion, la perversité. Non, c'est pas ça. Nous sommes tous les mêmes et nous aimons tous de la même façon. Nous nous quittons tous aussi de la même façon. Pour certains, c'est dans une chambre secrète et pour certains, ça ne se vivra jamais. Bon, vous savez, le frère de mon grand-père était homosexuel. Il s'est marié, il a eu 4 enfants et il a une vie parallèle. Alors on disait qu'il avait des amants, des marins. Ça, je ne sais pas, c'est un peu le roman familial. Hein. Mais cet homme était profondément malheureux, je le savais. Mais il avait une tendresse infinie, il nous appelait souvent en Algérie, parce que nous étions comme lui. Nous étions ceux qui n'étaient pas totalement à l'image de cette famille-là. Nous étions à côté.
Et un cet peu oncle, hybride.
Ouais, ce grand-oncle, et là, je ne l'ai pas connu assez, il est mort assez jeune. Et j'ai une tendresse pour lui, parce qu'à l'époque, ça devait être très compliqué. Ce n'était pas en 2018. Il s'est marié, il a aimé sa femme, ça j'en suis persuadée aussi, et ses enfants aussi. Mais il s'est renié, parce que ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas. On a rarement évoqué son souvenir dans ce sens, dans cette famille. Alors moi, je l'écris parce que je lui rends hommage aussi, à lui aussi.
Une toute dernière question avant de vous donner la parole, si vous souhaitez poser des questions. Pourquoi mentionner roman sur la couverture de votre livre ?
J'y tiens beaucoup parce que pour moi, roman dit écriture. On a souvent dit que je faisais de l'autofiction. Je n'ai absolument rien contre l'autofiction. Je comprends ce que ça veut dire, c'est-à-dire se raconter soi, faire de soi une fiction. Je ne sais pas si je rentre dans ce courant littéraire parce que je ne suis... Alors, je suis obsédée par la vérité, mais je suis obsédée par ma vérité. Et à partir du moment où la vérité passe par le filtre de l'écriture, de la littérature, elle est inventée. C'est une vérité qui est reconstituée, donc il manquera toujours un pan. Et tant mieux. Ça, c'est l'invisibilité. C'est l'antichambre de l'écrivain. C'est le secret aussi de l'écrivain. Un écrivain n'a pas livré tous ses secrets. Et j'ai du respect pour mon lecteur. J'écris comme je vois le monde. J'ai toujours dit que j'étais plus une artiste qu'une intellectuelle. Et vous savez, moi, je ne sépare jamais le ciel. Quand je me réveille, quand je marche dans une rue, je me dis que c'est fou, dans notre décor, qu'il y ait le ciel, qu'il soit bleu, rose, je le regarde toujours. Je suis une poète, et donc c'est pour cette raison que je garde le mot roman. Merci, merci.
Merci pour votre belle présence. Est-ce que vous avez envie d'avoir le micro et de prolonger cette discussion? On a quelques minutes devant nous. Si quelqu'un veut prendre la parole, c'est possible. Il n'y a pas de main qui se lève. Alors, un dernier moment de poésie pour conclure cette rencontre, pour finir sur la nature et la protection et le ciel. Ce souvenir. Nous découvrons une presqu'île à 80 km d'Alger, après le village de Bérard. Un endroit secret qui me fait penser à la matrice. Il faut traverser une ferme pour y accéder, prendre un chemin en pente, descendre dans le ventre de la terre. Les rochers sont rouges, les arbres serrés font obstacle au soleil. Ils composent une forêt magique que je ne retrouverai jamais ailleurs. La presqu'île est un rocher géant, plat, sans aucune aspérité, poli par le vent et le sel. Une plateforme posée sur la mer depuis laquelle nous nous élançons, tels des oiseaux. La légende dit qu'une rivière d'eau douce traverse les courants. Elle a fait recouvrer la vue à une princesse et protège le bonheur des amants. Merci beaucoup. Merci Nina Brown. Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Donc le livre « Tous les hommes désirent naturellement savoir », vous l'aurez compris, de belles pages à partager. La librairie est présente, vous pouvez vous procurer le livre, le faire signer et échanger avec Nina Biroir. Oui, merci beaucoup pour votre attention.